musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Si tu te fais carpe dans un étang, me ferai pêcheur, pêcheur, pêchant, et pêcherai la carpe dedans l'étang. Si tu te fais pêcheur, pêcheur, pêchant, me ferai rose en vert près. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Gaville-Oisem, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Alors je dis il y a un autre site, peut-être en ce moment, qui est plus pertinent à vous dire, c'est le anarchiste.info sur lequel on peut écouter l'émission en direct et les podcasts, parce que je crois que le site de Radio Libertaire a quelques soucis en ce moment. Très heureux de retrouver à nouveau Dominique Grimaud. Bonjour Dominique.
Bonjour.
La dernière fois, on t'a reçu, alors c'était pour une évocation de mai 68.
Oui, c'est ça.
C'était un.
C'était donc il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, bah oui.
Oui.
Et la fois précédente, on t'avait reçu pour parler, c'était Yves-Marie Maé qui avait fait qui avait mené l'entretien, et on parlait de toute ta carrière, de tout ce que tu avais fait. Donc on va pas répéter tout. Peut-être, si quand même, peut-être nous rappeler quelle a été ta formation musicale ou peut-être plutôt ta non-formation musicale.
Oui, plutôt.
C'est ça, tu es autodidacte ?
Complètement autodidacte, oui. Ouais. Oui, 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 oui. J'ai fait 3 ans de cours de solfège quand j'étais enfant, mais je n'ai strictement rien tiré, sinon un profond dégoût et tristesse, et voilà.
Oui, ça aurait pu te dégoûter de la musique.
Oui, 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 oui.
Ça nous a fait ça à pas mal de gens. Et alors peut-être aussi, pour que les auditeurs puissent te situer également, de quel instrument tu joues ? Je crois que tu es multi-instrumentiste quand même là.
Oui, j'ai essayé un petit peu tous les instruments. Et j'ai trouvé mon instrument à partir du moment où j'ai pu acheter un synthétiseur.
Ah ouais ?
En 1974.
D'accord.
Ouais. Et puis, mais quand même, j'ai continué à jouer de la guitare un petit peu. Ouais. Là, pareil, j'ai vraiment trouvé ma façon de jouer la guitare en découvrant les accords ouverts. Une autre façon d'accorder les guitares qui venait surtout du blues,
ouais,
de la musique hawaïenne aussi. Et là, j'ai pu jouer de la guitare.
C'est-à-dire en désaccordant ?
Oui, enfin, c'est une autre façon.
En accordant autrement.
Voilà, c'est une autre façon d'accorder. Ouais. Et c'est, quand on joue les cordes à vide, on a déjà un accord.
Oui.
Et puis voilà. Ce qui est employé dans beaucoup, beaucoup de musique de blues, de country. Mmh. Et je joue aussi du sax. Et j'avais un peu abandonné le sax. J'ai joué du sax free, sans savoir jouer.
Ouais.
Et là, dans un album qui paraîtra, c'est le prochain à paraître, je suis revenu au sax et à la clarinette basse.
Oh bah dis donc, oui, parce que j'ai vu en étudiant la question qu'effectivement, il y avait un album dans lequel tu jouais du sax.
Oui.
Donc c'était pour ça que je voulais...
Oui.
Si tu te demandais. Puis alors, il y a pas mal de bidouillages, je ne sais pas comment dire, d'autres, de manipulations électroniques, il me semble. C'est ce qu'on va entendre dans les 2 albums dont il va être question aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Je joue avec des réverbes, avec des choses comme ça, maintenant, des samples.
Ouais, ouais. Donc, les 2 albums, c'est 19 Feedbacks, qui
oui.
est donc ton album solo. Et on
oui.
va parler également de l'album duo, dont le titre, je l'ai noté quelque part, mais je ne m'en souviens plus.
J'aime.
Voilà. J'aime tout ce que fait le ciel à n'importe quel moment.
Voilà.
On reviendra sur le... Alors, on avait initialement annoncé la venue de Véronique Villet dans l'émission, mais elle n'est pas à Paris, elle n'habite pas à Paris, donc ça ne tombait pas forcément bien. On la salue. Salut à toi, camarade, et on t'embrasse. Alors oui, d'ailleurs, on a commencé l'émission avec un extrait de votre album duo Métamorphose. On y reviendra. Pour l'heure, je renvoie on va pas répéter tout ton parcours et tout ce qu'on avait fait dans l'émission du 7 octobre 2016. Elle est en ligne sur notre site lesoreillelibres.free.fr. Mais depuis cette émission du 7 octobre 2016, donc je rappelle la date, il y a eu plusieurs sorties, notamment d'enregistrements d'époque. Je pense à Vidéo Aventure, caméra, une focus caméra, Al Riparo, donc c'est venu après.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, brièvement ?
C'est un disque qui a été enregistré en 79 à 81, à peu près, autant que je me souvienne. Oui, je ne dis pas de bêtises, avec Jacques Bérocal, entre autres, et puis d'autres gens. Et puis là, ce dont tu parles, c'est une réédition qui a été faite par un label qui s'appelle Megaphone aux États-Unis, le label de Jason Villette.
Ah oui.
Et voilà, il est ressorti avec une nouvelle pochette, un très beau vinyle.
Ouais. Et alors également, il y a eu deux sorties chez nos amis du Souffle Continu.
Oui.
Et il s'agit de Camisole plus l'Art Free, d'une part, et d'un double album de Camisole, d'autre part. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur leur travail de réédition ? On avait dans nos studios Théo Jarier, il y a 15 jours,
ah oui,
qui évoquait ces rééditions à propos de la réédition de l'album de Alain Belaïche.
Oui, bah ça, c'était des rééditions de Souffle Continu qui, c'était il y a combien, il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Alors, le Camisole, c'est des enregistrements de 1978. C'est des enregistrements qui devaient paraître sur le label de Georges Caracos, qui s'appelait Tapioca, avec gong, téléphone, des groupes comme ça.
Ouais.
On avait enregistré et malheureusement, le label a capoté avant que le disque sorte. Donc, c'est resté dans un tiroir pendant des années. Ah, c'est ressorti par le label Spalax en CD à la fin des années 90. Mmh. Le label Spalax est aussi tombé un peu en désuétude. Et Théo et Bernard l'ont ressorti donc en double album. Et on a pu rajouter 20 minutes qui avaient été enregistrées un tout petit peu avant, quelques mois avant. Mais je crois que ça reste encore en 78, peut-être 77, je ne sais plus très bien. Et ce sont des morceaux moins improvisés, parce que tout le reste était improvisé, enregistré à la maison de la radio, donc un très bon enregistrement, et c'était supervisé, j'espère que je ne vais pas oublier le nom, par François Jouffa, qui était le producteur c'était un homme de radio, un homme de télé, et c'était aussi le producteur de Camembert Électrique, en fait.
D'accord, oui.
Voilà, et c'était bien de pouvoir ajouter ces parties-là. Et le Camisole L'Art Free, c'est donc à un moment, à la fin des deux groupes, ce sont nos derniers concerts, et c'est fin 78, je crois. Mmh. Et voilà, c'est un enregistrement live où les deux groupes ont fusionné, donc on doit être 6.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc ça, on retrouve ces deux albums sur le catalogue du Souffle Continu.
Oui.
Alors, puisque Véronique n'est pas là, tu vas être son porte-parole.
Je vais essayer.
J'aimerais que tu nous parles de son parcours.
Ah, Véronique, alors c'est quelqu'un qui a commencé aussi au début des années 70 par du folk, par des choses comme ça. Et elle a joué dans un groupe qui s'appelait Johnny B. Crott. Et qui, à l'époque, a sorti un 45 tours avec une reprise. Non, il n'y avait pas de reprise de Gloria, c'est un peu plus tard, ça vient un peu plus tard, je me mélange. Et donc, et ensuite, ce groupe a continué et est devenu les musiciens de la troupe royale de luxe.
Voilà, ouais.
Et Véronique a continué voilà, pendant pas mal d'années, toutes les premières années. Elle a vraiment connu Royal de luxe tout à fait au début, les premiers spectacles, avant qu'ils deviennent vraiment des...
Ouais.
Et elle a continué jusqu'à leur tournée américaine en Amérique du Sud, sur le cargo. C'est là qu'elle a arrêté. Et voilà, pour son parcours. Et puis ensuite, elle a fait un petit peu moins de musique. Et on a commencé notre duo en 2018.
Avant. Bah oui, puisque le premier album date de 2015, il me semble.
Ah bah alors, on a commencé plus tôt, 2008 alors, c'est ça.
Oui, d'accord.
Ouais,
mais alors justement, comment avez-vous décidé de créer ce duo ?
Bah on s'est rencontrés, on ne sait plus, et voilà. Et puis comme on faisait de la musique tous les deux, on a commencé à jouer et on s'est également plu en musique.
Bah voilà,
c'est aussi simple que ça.
Oui, c'est aussi simple que ça. Alors par contre, y avait-il des idées esthétiques sur lesquelles vous vouliez partir ? Est-ce que vous aviez des idées préconçues en quelle direction ?
Sur cet album qui vient de sortir ?
Non,
sur les autres,
au début,
non. On a... Je ne sais plus, je me souviens plus. On a commencé à faire de la musique comme ça. Je sais que pour le premier album qui est donc A, en 2018, tu dis 2016
Alors 2015.
2015, d'accord, sorti chez Bam Balam. Moi, je me souviens du label, si j'ai des problèmes de date. Moi, je fais des synthés sur cet album. Véronique dit des batteries très lourdes. Et l'idée de cet album, c'était de faire quelque chose de... très simple et très sans fioritures.
Ouais.
Voilà, c'est un peu un hommage au krautrock, je crois.
Ah bah voilà, oui, oui.
Oui.
Ben alors, je me souviens moi des dates parce que donc j'ai dit qu'on a reçu le 7 octobre 2016 et le second album n'était pas encore sorti. Il était juste en...
Oui.
Tu nous avais dit qu'il y avait des problèmes de pressage.
Peut-être. C'était le deuxième album, c'est Il.
Voilà.
Donc là, c'est un petit peu différent.
C'est particulier, ça, le concept, un peu.
Le concept, c'est... Oh là là, ça remonte à loin. C'est tout un cheminement, la musique. En fait, moi, à un moment, j'avais monté un projet de Robinson Crusoe, que j'ai jamais mené jusqu'au bout. Et c'était ça dans les années 80, oui, ça, voilà. Et puis, en pensant à un deuxième disque à faire en duo avec Véronique, j'ai eu cette idée de me replonger un petit peu là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que Denis Tagu, du label Un Polisson, nous a offert un livre qui s'appelle, je ne vais pas retrouver le titre exact, mais... C'est les îles. C'est un livre sur les îles incroyables, les îles particulières. Je me souviens pas du titre exact. Qui a été écrit par une Allemande de l'Est, je crois, enfin Allemagne de l'Est. Et c'est pareil, j'ai oublié le nom. J'aurais dû prendre des notes. Et donc voilà, c'est un album sur le thème, c'était les îles. Et là, il n'y a pas de synthétiseur, ce sont des guitares.
Ah oui.
Ce sont que des guitares et la batterie de Véronique et quelques percussions. Voilà.
Voilà pour le passé. On va parler du présent dans notre émission. Hein.
C'est peut-être un peu plus frais.
Ouais. Et puis c'est ce qui nous intéresse aussi maintenant. Après, on va écouter Richard Brautigan et je propose qu'on en parle après.
D'accord.
Mêlant à la rigueur.
sais qui. Mon cœur appelle, je sais qui. Mon cœur appelle, je sais qui. Mon cœur appelle, je sais qui. Je sais qui. Par ces maudits, l'absence de ceux qui planent sous l'aile de Brontigame. Par ces maudits, l'absence de ceux qui planent sous l'aile de Brontigame.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Dominique Grimaud. Et on vient d'écouter Richard Brontigame. Alors, le texte de la chanson qu'on vient d'écouter a été écrit par Véronique. Je voudrais savoir, que représente cet auteur pour vous ?
Ah. Véronique, évidemment, aurait été beaucoup plus à même de répondre. C'est quelqu'un de très important pour elle. Je pense qu'elle l'a connu dans les années 70. Moi, c'est elle qui me l'a fait découvrir, pour tout dire. Mmh. Donc, je crois que je vais avoir du mal à répondre à cette question.
Bon, c'est pas grave. Et alors, bah, peut-être, je ne sais pas si tu auras plus de facilité à répondre à celle-ci. Le titre de l'album, donc « J'aime tout ce que le ciel fait à n'importe quel moment ». Pourquoi ça, donc, c'est une phrase de Brontigame.
Oui, oui.
Et pourquoi l'avoir choisi comme titre ?
Il y a eu Véronique m'a fait plusieurs propositions. Il y avait 5 ou 6 titres comme ça qu'elle avait extraits de la littérature de Richard Brontigame. Et c'est celui-là qui est sorti parce que voilà, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai trouvé long aussi. Les deux disques précédents, c'était des titres extrêmement courts.
Oui.
Voilà. Donc c'était bien de changer un petit peu. Ouais. Et ça évoque des belles images.
Ah oui, mais...
Une belle philosophie aussi, je trouve.
Eh bien, justement, voilà. C'est là-dessus que j'aimerais bien te titiller un peu. Quel message, justement, quelle philosophie porte l'ensemble de ces textes ? Est-ce qu'il y avait un désir par rapport aux textes, déjà ?
Ah oui, complètement. Bah, oui, c'est des textes... d'une part, il y a Richard Brontigame, il y a Moondog aussi, voilà, des personnages, des sages, je vais dire. Mm-hmm. Et puis, il y a des textes qui sont quand même, pour raconter un petit peu l'histoire de Véronique, son grand-père, quand elle a rangé la maison de son grand-père, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, elle a retrouvé une carte de libre-penseur. Ah. Donc, voilà un peu de quelle famille elle vient. Ça, c'était son grand-père, et son père était un résistant qui, à la fin de sa vie, a eu l'honneur d'avoir la Légion d'honneur parce que voilà, il avait vraiment fait des choses vraiment très très bien dans la résistance. Et voilà, je crois que tout ça ressort dans le disque. Ce sont des textes comme ça, un peu. C'est toujours difficile de mettre vraiment des mots précis. On essaie toujours de ne pas trop se définir, quoi.
Ah, mais... Oui. Mais bon, justement, ici, on est là pour ça. Parce qu'il y a quand même... alors, tu parles de résistance, effectivement. Oui. Moi, ça ne m'avait pas échappé. Mais il y a aussi un aspect un peu nonchalant. Tu vois, j'aime tout ce que fait le ciel à n'importe quel moment. Oui. Travailler, c'est trop dur. Il y a quand même un style dans tout ça. Même la chanson de Moondog... dans les paroles, il y a une espèce de... C'est pas une résistance. Peut-être c'est plus une résistance par rapport au système qui...
Oui, bien sûr. Mais la résistance, c'est pas forcément quelque chose de violent et de rapide. Et voilà, ça peut être aussi prendre son temps, résister, je crois, par les temps qui courent. Prendre son temps, c'est une belle résistance.
Oui, déjà, oui.
Ouais. Et il y a toutes ces choses-là.
Ouais. Alors, dans les deux premiers disques, Véronique jouait des percussions, de la batterie même.
La batterie, oui. Ouais,
la batterie. Ça donnait une musique hypnotique. Tu as parlé de Krautrock tout à l'heure. Oui, alors on se souvient de l'excellent concert que vous aviez eu la gentillesse de donner pour le deuxième festival des Oreilles Libres, qui était en décembre 2016. Au squat Valenciennes.
Oui, je me souviens bien.
Alors, on vous remercie à nouveau pour ça.
Merci à vous.
Et avec ce troisième album, il n'y a plus de percussion, mais uniquement la voix. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi pas de percussion, par exemple?
Déjà, moi, ce que j'aime bien faire avec les albums, d'une fois sur l'autre, c'est ne pas refaire la même chose. Ouais. Voilà, changer complètement. Et ça, je crois que depuis le début, je le fais pratiquement à chaque fois. Quoi. Ouais. Et donc, voilà, après les deux premiers, la Véronique avait le désir de faire quelque chose avec la voix. Ah ouais. Donc j'ai dit, bah oui, c'est une bonne idée, allons-y. Et j'ai dit, ce qui serait bien, ce serait de faire quelque chose qu'avec uniquement la voix, rien d'autre.
Eh ouais.
Et j'avais ma petite idée, elle a dit, bon, d'accord, essayons. Et en fait, on a essayé de remplir ce contrat, cette idée. On ne l'a pas fait à 100%, disons qu'on l'a fait à 95%, 90%, je ne sais pas. Mmh. Et en fait, il n'y a presque que de la voix. Il y a quelques échantillons, très très peu, que j'ai puisés dans des disques des Beatles, par exemple, ou des Beach Boys.
Ah, d'accord.
Mais c'est des choses très brèves. Et le reste, ce sont des boucles aussi, mais des réverbes, des choses comme ça, faites uniquement avec la voix de Véronique. Elle a chanté a cappella, en fait, sans aucun support.
Oui. Alors, et toi, tu n'en
Et moi, j'ai juste travaillé le son, extrait des petites parties, mis ça en boucle, mis ça dans des réverbes, dans des... Par exemple, il y a des rythmiques, parfois, c'est fait avec la voix, en fait, au départ.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Ouais. Donc, tu n'interviens pas en tant qu'instrumentiste?
Non, c'est plutôt un rôle de... comment on appelle ça,
d'ingénieur du son de...
Non, pas d'ingénieur du son, justement, de producteur artistique.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc, pas de percussion. Alors, il y a un fameux percussionniste, par contre, mais au-delà de ça, un compositeur très atypique, tu l'as cité, Moondog.
Ah oui.
Le concernant, quelle importance particulière il revêt pour vous, lui?
Oh, c'est quelqu'un de... Alors, comment dire ça? C'est quelqu'un, voilà, moi, qui m'a toujours plu depuis le premier disque que j'ai connu en, je ne sais pas en quelle année, en 69 peut-être, son disque sur CBS, je crois, un album tout en longueur, là, avec de profil, l'album le plus connu.
Oui, le plus connu.
Voilà, on avait découvert ça simplement chez le disquaire du coin, et après, il avait un petit peu disparu, et... Et on le voilà. Après, il est réapparu un peu dans les années 90, dans les années 2000, et on s'est redécouvert. Et, enfin, on a redécouvert d'autres morceaux, des choses un petit peu moins connues. Et c'est quelqu'un de très particulier qui a. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'on peut pas le classer, quoi. Il est jazz classique. Il fait aussi des enregistrements comme ça, très rudimentaires. C'est voilà, ce qui nous a attiré chez lui.
Il était un peu clochard aussi dans les rues.
Oui, voilà, enfin, oui, 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 oui,
atypique,
oui, oui, oui.
Et c'est un fameux rythmicien aussi, hein, les morceaux.
Oui,
sont...
oui, bien sûr.
Alors justement, pourquoi ? Parce qu'il a quand même une production assez énorme. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi ce morceau en 7 ans, sur lequel tu chantes ?
Non.
Non.
Et voilà, on pourrait croire que je chante, en fait, non.
C'est la transformation de la voix.
Voilà, c'est la transformation de la voix avec un pitch, oui.
Oui, oui, d'accord. Oui. Et pourquoi ce morceau ?
Faudrait demander à Véronique, elle n'est pas là. Je suis désolé, je vais pouvoir répondre.
Donc un morceau en 7 ans, Do Your Thing, par Dominique Grimaud et Véronique Villet. Avant tout, donc, puisque c'est la voix.
Do your thing, even if we do call a tune you sing. Don't give up, that's not a way to win a loving cup. And opportunity will do the rest. Don't give in. Capitulation is a greatest sin. Do what's right for you to do with all your might. Don't regret what might have been, you might as well forget. Stand your ground, and while you're standing there, be duty bound. Learn to wait, and while you're waiting, learn to concentrate. Make them end. All enemies I call potential friends. Come with this and put the cup at least in peace.
Voilà, c'était donc Do Your Thing. Alors, peut-être on peut préciser la façon de travailler la musique. Ça semble très économe et pourtant c'est assez ciselé, c'est assez comment dire, brodé, je ne sais pas comment dire.
Oui, oui, brodé, c'est un beau terme, oui. Oui.
On a l'impression que tu ne voulais pas surcharger par rapport à la voix. En même temps, il y a un travail, ce n'est pas la voix brute.
Oui, bien sûr.
Tu peux expliquer un peu techniquement parce que tu parles d'échantillons, et c'est quoi exactement ?
Là, sur ce projet, donc, c'était la voix. Ouais. On part de la voix, donc on a enregistré la voix, chantée comme ça, a cappella. Mmh. Plusieurs prises, voilà, jusqu'à temps qu'on ait la bonne. Et puis après, c'est un travail de studio avec du matériel électronique. Prendre un petit bout, l'isoler, ouais. Le descendre de 1 octave, 2 octaves, ouais. 3 octaves.
Comme la voix là, de Véronique, que je pensais être la tienne. C'est, voilà.
Voilà, c'est une voix qui doit être descendue de 1 octave, peut-être, ouais. Je ne me souviens pas. Ouais. Et... Il y a d'autres appareils avec lesquels qui s'appellent des enveloppes, avec lesquels on peut faire des rythmes, en fait. Ouais. Mais on peut partir de n'importe quel son. Ouais.
C'est ce qu'on retrouve dans la musique, peut-être électroacoustique, ils font des choses
comme
ça.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, 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 ouais. Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi des personnes qui ont travaillé avec vous sur cet album ?
Alors, il y a David Fenech, voilà, qui est le... On pourrait dire que c'est la troisième personne de notre duo.
Ouais.
C'est toujours lui qui, déjà, il nous conseille pour le matériel, les choses comme ça. C'est David est quelqu'un qui connaît très, très bien le son. Et puis ensuite, quand on a terminé un album, on lui demande s'il veut bien faire le pré-mastering, c'est-à-dire affiner le son. Voilà, c'est vraiment la finition, rendre les choses vraiment très précises. Et puis le découpage des morceaux, c'est très important aussi. Tu parlais tout à l'heure de... c'était pas ton mot, c'était pas sobriété, mais ouais, c'est de...
D'économie.
D'économie, voilà. Ouais. Mais par exemple, une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais le temps de silence entre deux morceaux, s'il est de 1 seconde, de 4 secondes, de 6 secondes ou de coller, voilà, ça met en valeur les choses ou pas. C'est du silence, mais voilà. Et ça, c'est des choses aussi qu'on travaille avec David. C'est des détails qui comptent beaucoup pour le produit final.
D'accord. Eh ben on le salue, on l'embrasse, David Fenech. Tout comme Patrick Muller aussi, qu'on connaît bien ici sur la radio, qui participe également à cet album.
Non.
Oh, je crois qu'il est crédité sur la pochette.
Non, je crois pas. Hein? Non.
Bon.
Ah, il a fait Patrick, oui, je confondais avec Thierry Muller. Excuse-moi. Oui, Patrick Muller, oui, bien sûr, il a fait le mastering. Oui. Voilà, c'est la phase finale.
Ouais.
Thierry, David Fenech pré-mastering et Patrick Muller le mastering.
On les embrasse tous les deux. Alors, il y a pas mal de reprises, 9 sur 12, dont 5 sont créditées traditionnelles.
Oui.
Alors, en dehors d'une interprétée par jadis, tout à fait autrement d'ailleurs, par Julien Clerc, j'ai pas trouvé trace d'aucune des 4 autres. Bon, tu me diras, il y en a une qui s'appelle Charlie. Donc, quand tu tapes Charlie chanson, tu tombes sur un nombre de trucs qui n'ont pas grand-chose forcément à voir.
Ce sont des traditionnels du blues, tous ces morceaux. Ouais. Voilà, c'est des morceaux de
voilà,
blues,
c'était ma question, de quel patrimoine populaire.
Voilà, de musique cajun, de choses comme ça.
D'accord.
Voilà, et les paroles sont donc là en français. Évidemment, Charlie, c'est un hommage pour Charlie. Et...
Oui, aussi, voilà.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Et...
Charlie Hebdo. Et alors, le métamorphose qu'on a entendu au début, c'est ça? Ça vient du...
Alors ça, c'est un morceau assez... C'est un morceau du Moyen-Âge, en fait, de la Renaissance, voilà. C'est un morceau très, très classique de cette période.
Alors, notre ami Henry, qui fait la technique aujourd'hui, est absolument émerveillé par ce morceau. Et le morceau qu'on va entendre maintenant, Henry, c'est Tout en haut. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est un morceau que Véronique, je ne pourrais pas dire l'année exacte, mais c'est un morceau qu'elle a déjà enregistré sur d'autres albums de Johnny B. Crotte ou de Johnny B. C., parce qu'à un moment, Johnny B. Crotte est devenu Johnny B. C. Et voilà, et là, on a fait une nouvelle version, encore une fois, avec uniquement la voix.
Bon, on écoute Tout en haut, deux extraits de l'album « J'aime tout ce que fait le ciel à n'importe quel moment » de Dominique Grimaud, Véronique Villet. Et après, on va parler, puisqu'on va arriver à peu près à la moitié de l'émission, à l'autre album dont il va être question aujourd'hui, 19 Feedbacks. Et maintenant, on écoute Tout en haut.
Tout en haut de la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est un bruit de mobilier qu'on fracasse. De la fenêtre, il s'envole dans l'espace. Thank you.
au secours, on tue, on m'assassine. Sur le palier, les voisins, les voisines tremblent de peur. C'est un
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Dominique Grimaud. Alors, on va parler de 19 feedbacks. Excuse-moi, je l'ai dit, moi qui n'aime pas trop l'anglais, je l'ai dit en anglais tout à l'heure. Non. 19 feedback. Et peut-être avant tout, peux-tu nous donner la définition de ce qu'est un feedback ?
Un feedback, c'est... Moi aussi, je dis 19 feedback.
Ben oui.
Et un feedback, c'est le son qui est généré quand un micro de guitare est trop proche d'un haut-parleur, tout simplement.
Ouais.
Voilà, ça fait un sifflement, quelque chose.
C'est-à-dire
réaction,
que...
c'est ce qu'on appelle le larsen en français.
Ouais.
Enfin, du moins, les gens de ma génération appelaient ça comme ça.
Voilà, donc c'est le son qui retourne dans le micro, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et alors, il y a une histoire du feedback, si j'ai bien compris. Comment cela a-t-il commencé, puis évolué ?
Alors, c'est une histoire... un petit peu complexe. Et enfin, pour moi, cette histoire, ça a commencé en 1964 avec... Je vais pas raconter l'histoire officielle du feedback parce qu'il y a des gens qui la connaissent beaucoup mieux que moi.
Ouais.
Qui, voilà. La mienne, en tous les cas, celle que j'ai vécue. En 1964, j'ai acheté un petit 45 tours des Beatles. Et au début, il y avait un drôle de son quand j'ai posé le disque. Ça faisait, je ne vais pas être capable de le faire avec la voix, ça faisait un truc comme ça. Je me suis dit, tiens, le disque a un petit défaut, mais ça durait très peu de temps. Ça durait une ou deux secondes, pas plus. Puis ensuite, à l'époque, c'était une chanson. La chanson passait. Et pendant des années, j'avais acheté un disque avec un défaut. Et puis en fait, en lisant des choses, en lisant justement des histoires, des feedbacks, on s'aperçoit que John Lennon et Paul McCartney, c'était tout à fait volontairement qu'ils avaient mis ce son qui, à l'époque, était complètement banni et rejeté par les musiciens. Il avait fallu attendre Jeff Beck, Jimi Hendrix et des gens comme ça, c'est-à-dire... au moins trois... Les Who après les Beatles. Ouais. Les seconds, ce sont les Who. Donc, c'est 65, on va dire, au moins un an et demi, deux ans après. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les Beatles ont fait croire que c'était un accident et qu'ils avaient demandé l'autorisation à leur label et à leur producteur, Martin, de laisser ça. Et il avait dit, ouais, d'accord, on le laisse. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Mais ils avaient été obligés de mentir, en fait.
Ouais.
Et c'est une chose qu'ils avaient vraiment... on l'a su par la suite en écoutant les bandes, les chutes de studio. On s'est aperçu que ça avait été un travail répété, étudié. Il avait refait plusieurs fois pour arriver à trouver le bon son, etc. Quoi.
Ouais.
Tout à fait quelque chose de prémédité. C'est le premier, vraiment, le premier feedback enregistré sur un disque. Et voilà. Et un an et demi, deux ans, oui, après, ce sont les Who qui s'y sont mis, et puis Jimi Hendrix. Et voilà, et l'histoire a continué comme ça. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de tout à fait... pas possible, tout simplement, de mettre ça sur un disque. Quoi.
Alors, on va écouter une suite de morceaux. Mais avant, je voudrais que tu nous précises sur quelle période as-tu travaillé ? Est-ce que ce sont exclusivement les années 60 ?
Oui. L'enregistrement le plus ancien, c'est 1964, donc ce morceau dont je viens de parler. Et les plus vieux, parce qu'il y en a plusieurs, c'est 1969.
Ah oui, donc
et pas... je pourrais m'expliquer pourquoi cette période et pas avant, pas après.
Eh ben on t'écoutera, oui, parce que moi,
oui.
J'ai cherché, il me semblait entendre des choses des années 70, mais on va écouter d'abord pour que les auditeurs sachent de quoi on parle, et puis on te posera la question après. Donc, morceau de l'album, en fait. Hein. On dira les noms après.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.net partout ailleurs. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Dominique Grimaud, dont on a écouté les 5 premiers morceaux du disque 19 Feedback. Et alors, pourquoi avoir choisi donc ces années 60, de 64 à 69, et pas au-delà ?
Alors, c'est tout simplement la musique de mon adolescence. Mmh. Et je me suis aperçu, comme tu sais, j'ai pas mal écrit, publié aussi quelques albums sur l'underground français. Ouais. Et j'avais envie de me démarquer un petit peu de ça. On commençait un petit peu trop à me mettre dans la case spécialiste de l'underground français. Et j'avais envie de travailler quelque chose qui soit autre chose, qui soit la musique de mon adolescence, que j'aime beaucoup aussi. Parce que oui, j'ai entendu pas mal dans ces années-là. Des gens qui me disaient « Oh, les Beatles, oh, j'aime pas trop. Oh, les Who, c'est lourd, etc. Les Rolling Stones, t'écoutes ça, les Rolling Stones, mais c'est pas très bien. » Et bon, c'était pas du tout mon avis, parce que je suis né en 1950, donc j'avais 14 ans en 1964. J'avais 19 ans en 1969. Ouais. 19 ans, 19 feedback, c'est pas pour rien. Et ouais, c'est l'adolescence.
Les teens,
la musique de l'adolescence, c'est la musique qui te marque à vie, je pense. Ouais. J'ai remarqué ça pour toutes les générations, c'est comme ça. Et puis cette période-là, des années 60, ça a vraiment été une période particulière. Je me suis aperçu, pas sur le moment en fait, pas au moment où j'écoute, pas dans ces années-là, mais un petit peu plus tard, je me suis aperçu qu'en fait, les musiques, c'était des musiques populaires à l'époque, populaires uniquement pour la jeune génération. Les anciens détestaient ça, mais c'était la musique populaire des ados et des gens jusqu'à 25 ans. Et il y avait beaucoup d'éléments de musique d'innovation, de musique innovatrice. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'était très innovant, quoi. Il y avait vraiment de l'invention. Et à mon avis, ces groupes-là, ces musiques rock, pop, à partir de la fin des années, à partir de 69, tout simplement, elles ont commencé à changer et à devenir beaucoup moins expérimentales. Voilà le mot que je voulais dire. Ouais. Il y avait des éléments expérimentaux qui n'y a plus après. Dans les années 70-80, l'expérimental, ça passe dans d'autres domaines, ça passe dans le krautrock, dans l'underground français aussi, et ça devient des musiques qui peuvent, et ça reste encore dans la musique anglaise et américaine, mais pour des groupes beaucoup moins populaires. Les Beatles, les Rolling Stones n'innovent plus à cette époque-là, qu'ils ont innové dans les années 60. Et c'était ça que je voulais rendre un hommage à cette musique-là.
D'accord, ouais. Donc là, il y a exclusivement des groupes anglais-américains ?
Uniquement, oui, et des groupes très connus.
Et des groupes très connus.
Qui étaient expérimentaux, je le répète encore une fois, c'est important. Et je pense que les générations qui n'ont pas connu cette époque-là, qui ont commencé à écouter de la musique dans les années 70-80, ne se rendent pas du tout compte de ça. Mmh. Comme Hendrix, évidemment, j'avais oublié de citer Hendrix, c'est le phénomène le plus connu. Ouais. Mais les Beatles aussi. Les Beatles étaient capables de faire Revolution No. 9 et juste après, une petite berceuse. Ouais. Il y avait ce mélange. Et encore un petit peu avant, une musique de cow-boy complètement débile. Voilà, etc. etc.
Alors, feedback en sciences humaines, c'est aussi retour sur soi. Et donc, tu dis, c'est les musiques de ton adolescence. Et y a-t-il un côté nostalgie, un truc plus personnel, un truc...
Nostalgie, peut-être un peu quand même, oui. Mmh. Mais là, oui, il y a peut-être un peu de la nostalgie, mais... Pourquoi
aussi
pas.
Par rapport à l'époque qui était c'était les 30 glorieuses comme on dit maintenant.
Oui.
Par rapport à ce qu'on vit maintenant.
Oui, les 30, oui, je veux bien, mais non, j'aime pas trop cette expression, non, les 30 glorieuses. Non, oui, c'était pas une époque très facile quand même.
Ouais.
Oui.
Bah, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour nous parler aussi de mai 68.
Oui, j'évoquais ça, de cette société dans les années 60, c'était quand même extrêmement rigide. Voilà, c'est pour ça que ces musiques plaisaient aux jeunes. Mais c'est pour ça aussi qu'elles étaient expérimentales et révolutionnaires. Ouais. C'est parce qu'à l'époque, on était dans un monde très confiné, très noir, très... Voilà, il ne fallait pas... Ouais. On n'avait pas droit à l'excentricité, on n'avait pas le droit d'être différent. Très rigide, ouais, ouais. Bien sûr.
Bah, la France du général, tout ça. Et alors, même question que tout à l'heure, peux-tu parler des personnes avec qui tu as collaboré sur ce disque ?
J'ai travaillé tout seul. Oui, je travaillais tout seul, voilà, pendant très longtemps, parce qu'en fait, je l'ai fait deux fois, ce projet.
Ah.
J'ai enregistré une première version où on entendait les morceaux pendant quelques secondes. Dans chaque morceau, il y avait quelques petites secondes où on pouvait reconnaître le morceau.
Oui, oui. Ouais.
Et quand j'ai envoyé le disque fini, enfin pas le disque fini, mais l'enregistrement fini pour des labels, et ils m'ont dit fais attention, quoi, c'est interdit de faire ça, voilà, faut payer des droits, faut demander l'autorisation. Donc j'ai tout recommencé depuis le début en utilisant cette matière sonore, mais en faisant très attention que rien ne soit reconnaissable. Mais c'est vraiment la matière sonore des années 60. Des passages les plus expérimentaux, ou pas d'ailleurs, ça dépend des fois. Et là, voilà, comme pour l'autre disque, la personne qui m'a aidé après, c'est David Fenech, qui a fait le pré-mastering, comme les autres fois, comme pour les autres albums.
Alors je propose qu'on écoute un morceau, mais avant, j'aimerais que tu nous dises quelques mots du label Discrepant Records. Tu peux nous parler d'eux ? C'est un label anglais ?
C'est un label anglais, oui.
Tu es rentré en contact comment ? Enfin...
Je pars internet maintenant, c'est très facile. J'ai un coup de peau, j'ai regardé, j'ai dit voilà. J'ai envoyé l'enregistrement et la personne m'a dit je reçois des tonnes d'enregistrements, j'en reçois beaucoup, mais celui-là il me plaît vraiment. Donc, c'était extraordinaire. Et puis ça a été assez long à mettre en place parce qu'en fait. Je voulais la pochette, je l'avais déjà imaginée. C'était un texte en fait. Je voulais qu'il y ait uniquement pas d'image, uniquement un texte qui expliquait un peu ce que je raconte, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les années 60, l'expérimental, qui ensuite dans les années 70 passe sur des groupes moins connus, dans d'autres choses plus underground. Mais le label n'a pas voulu de ce texte. Il trouvait, voilà, Discrepant est un label qui aime les belles pochettes, qui fait attention à ça. Donc, voilà, je n'ai pas pu mettre ce texte, malheureusement. Et bon, ça n'empêche pas que la pochette est très belle. Je suis très content d'avoir pu sortir un disque sur ce label. C'est vraiment bien.
Alors, on écoute From the Bottom of the Sea. Alors, moi, le titre m'évoquait quelqu'un, mais je suis... D'après ce que tu dis, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la bonne...
Ça t'évoquait qui ?
Robert Wyatt.
Non, pas
particulièrement. The Bottom of the Sea, tu vois. Non,
non,
ça n'a rien à voir.
Non, bon. Non.
Bah, on écoute, on va chercher alors.
Thank you.
Alors, parlons des titres, justement. Là, on vient d'écouter From the Bottom of the Sea, donc rien à voir avec Robert. Comme ouais, je m'étais plus. Alors, les titres, comment tu les as choisis ? Induisent-ils en erreur ou sont-ils des indices fiables pour reconnaître les morceaux ?
Est-ce que je ne vais pas avoir des ennuis si je dis. oui, en fait, c'est des extraits des paroles de cette même époque, quoi, ouais. des paroles des chansons de cette époque. Ouais, ouais. Ce sont des indices, oui. Il y a des indices aussi sur le collage de la pochette qui a été fait par un artiste américain, et je lui ai demandé s'il pouvait mettre des petits morceaux de pochette. Et
ouais, essayer de reconnaître
dedans
aussi.
Et par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, mais peut-être, je pense que ça peut toucher que les gens qui ont vraiment 70 ans maintenant, c'est-à-dire que les premiers disques des Beatles qui paraissaient en France, ils étaient traduits en français, les titres parfois, hein, et c'était marqué « les ». L'article « Les Beatles » en français. Ah, oui. Et le « B », c'était une coccinelle avec les petites antennes. Ouais. Voilà, moi, j'avais 14 ans à l'époque. J'étais gamin et j'adorais ce « B ». Voilà, il est sur la pochette en tout petit.
Ah, d'accord.
On aperçoit des morceaux de pochette des Who, des morceaux de Soft Machine, de Jimi Hendrix, etc.
Faut
chercher.
C'est un jeu de pistes. En même temps, c'est pas un quiz. Alors c'est ça, c'est là-dessus que je voudrais t'interroger. Donc moi, j'ai quand même cherché parce que c'est des musiques que j'ai connues aussi et j'ai absolument rien reconnu. Hein. Aucun des morceaux. Et même comme je te disais en antenne, j'ai même fait un reverse. J'ai mis un des morceaux sur Audacity que j'ai inversé pour voir si tu allais te piéger et retrouver le truc. Rien du tout. J'ai absolument rien reconnu. En antenne, tu m'as dit quelques pistes. Mais alors, dans les textes qui accompagnent l'album, on parle des Beatles, des Stones, de Pink Floyd, et j'ai lu aussi Captain Beefheart. Mais est-ce que tu... J'ai lu aussi que tu ne souhaitais pas spécialement donner de pistes à l'auditeur. Pour quelles raisons ? Rien, t'aurais pu identifier, en dehors de ces histoires de droit, mais là...
Ben oui, mais c'est quand même un peu embêtant, ces histoires de droit.
Ben oui, mais là, c'est tellement peu reconnaissable que... c'est ça la raison. Il y a pas une autre raison par rapport à l'auditeur.
Pour moi, c'est de l'alchimie aussi.
Oui. Ouais.
Voilà, dans la première version dont je parlais tout à l'heure, c'était quelques secondes qui étaient identifiables, mais ouais. Les 99% du morceau, c'est un autre morceau. Voilà. Ouais. C'est simplement prendre une matière et en faire autre chose.
Oui, bah c'est ça complètement. Oui. Et alors, on va écouter un morceau qui s'appelle Scott Meets Leo.
Oui.
Je voudrais savoir quel rapport avec Soft Machine.
En fait, ça, c'est l'histoire de deux contrebassistes. Léo, c'est Léo Lyons, qui était le bassiste de Ten Years After, qui est un groupe que les gens connaissent très, très mal. Ouais. C'est un groupe qui a marqué à cause de Woodstock.
Bah, c'est ce que j'allais dire, oui.
Et alors qu'ils ont fait d'autres disques beaucoup plus expérimentaux où l'organiste, le batteur, le bassiste avaient vraiment une place à égalité avec Alvin Lee.
Ouais, le guitariste.
C'est un groupe, j'avais beaucoup adoré leur deuxième ou troisième album, je ne sais plus.
Donc, tu aimes bien Ten Years After ? Moi, j'ai vu du Soft Machine là-dedans. Mais
il y a Soft Machine, oui.
Oui, mais c'est pas ça, alors. C'est pas ce morceau-là.
C'est pas ce morceau-là,
je
non.
Je suis complètement planté à nouveau. Bon,
oui.
On écoute Scott Meets Leo. J'ai tout faux. Hein. Thank you. Et alors, quatre des morceaux ont un titre qui est The Next Song plus un numéro. Je veux savoir s'ils font partie d'un corpus à part ou si...
Oui, oui, cela, c'était vraiment l'idée de départ. C'était de partir de ce premier feedback enregistré par les Beatles, qui dure 2-3 secondes grand maximum. Et mon idée de départ, c'était de faire un album entier avec uniquement ces 3 secondes.
Ah, ouais.
Et bah, je n'ai pas réussi, en fait. Donc, mais il y a combien, tu dis 4 morceaux ?
Oui. Ouais.
Donc j'ai fait 4 versions. J'en ai fait plus, il doit y en avoir... Je crois qu'il y en a une qui s'appelle numéro 10.
Ouais, c'est ça.
Donc j'en ai fait 10, ouais, mais j'en ai rejeté 6.
D'accord. Ouais.
C'est un travail où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup jeté. J'ai jeté peut-être 90% du travail.
Oh,
que...
ah ouais.
Oui, oui, j'ai vraiment beaucoup jeté pour garder ce qui était le plus intéressant.
Mais alors, ce sont des morceaux assez courts, on l'a vu.
Oui.
On va en écouter un là tout de suite. Pour quelle raison ne pas avoir développé, si tu veux, sur des... Ça peut être un autre format, quoi.
Oui. L'idée, c'était de rester dans la longueur des morceaux de ces années-là, qui n'étaient jamais très, très longs.
Mm-hmm.
Bob Dylan, j'en parlais dans mon texte, d'ailleurs. Bob Dylan, en quelle année 4 ou 5, je ne sais plus. Et il a sorti un Like a Rolling Stone qui durait combien 4 minutes, quelque
ouais.
chose comme ça
ouais.
7 minutes, je ne sais plus. Enfin,
ouais.
Et c'était tout à fait étonnant à l'époque.
C'était hors norme.
Oui, c'était complètement hors norme. Donc je voulais rester dans un format 3 minutes maximum. Ouais. Voilà.
C'est même plus court que ça, hein, bah, parfois.
Ouais. Mais aussi parce qu'il s'agit de boucles, donc
oui, c'est ce que j'allais dire.
Comme il n'y a que des boucles et rien d'autre, voilà, on peut
ouais,
pas.
Voilà.
Alors on tombe dans un autre style de musique, et voilà, du répétitif, des choses comme ça, mais je ne voulais pas du tout faire ça.
Ouais, ouais. Ouais, effectivement, il y a la notion de boucle, donc, bon, qui sont évolutives tout de même, mais il y a quelque chose que j'ai lu également, il est question de, comme d'une bibliothèque. J'ai lu ça, que... c'est quelque chose dont on pourrait se servir pour des musiques de films, des génériques,
ah oui
des choses comme ça. Ouais.
Oui.
Est-ce que tu peux...
Ça n'a pas du tout été fait dans ce but-là, mais effectivement, ça pourrait. Sauf que, évidemment, je n'ai strictement rien déclaré à la SUISA, puisque moi, je suis à la SUISA et non à la SACEM. Mmh. Donc, ça ne me rapporterait rien. Mais je n'ai pas voulu déclarer parce que voilà, la matière sonore, comme je l'ai pris ailleurs, elle ne m'appartient pas.
Ouais.
Même si je trouve que quand on écoute bien la musique de n'importe quelle personne, en fait, il va plus ailleurs.
Oui.
C'est évident. Voilà, même, par exemple, les Beatles, dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai lu pas mal de livres où ils expliquent... d'où viennent les morceaux.
Ouais.
C'est vachement intéressant de voir que tel et tel morceau, ben voilà, pour eux, c'était une version qu'ils prenaient là, même s'ils signaient Lennon-McCartney.
Ouais.
C'était leur version à eux d'un truc qu'ils avaient entendu. Le rythme, ils l'avaient pris ailleurs. Je pense que toutes les musiques ne sont pas vraiment... Chacun y apporte sa touche, mais chacun va puiser aussi. Donc,
Voilà, oui. Bon, puis là, c'est quand même ton travail. Je trouve que c'est... Encore une fois, moi, j'ai absolument reconnu aucun des morceaux. Allez, peut-être les auditeurs vont y reconnaître de quoi il est question dans le morceau « Tides ».
Thank you.
Donc voilà, c'était Tides. Moi, j'avais reconnu Popol Vuh, un groupe allemand, mais donc je suis...
C'est sûr, c'est pas ça.
Là, c'est sûr que c'est pas ça du tout.
Peut-être c'est le Soft Machine que tu cherches depuis. J'en suis pas sûr. Même moi, je les reconnais plus.
T'as pas reconnu non plus.
Bon, si j'ouvre mes cahiers et que je regarde, je retrouve, mais pas tout le temps.
Bon, alors, l'émission Les Oreilles Libres, on est dans la dernière partie. Tu as parlé de la pochette de 19 Feedbacks. J'ai oublié de nous dire un petit mot sur la pochette de votre disque duo. J'aime tout ce que fait le ciel à n'importe quel moment, qui est très belle également.
Oui, alors, c'est une pochette d'une graphiste qui s'appelle... Est-ce que tu as le disque, là ?
Ah, c'est Henrik Hill.
Le nom... ne revient pas, c'est toujours comme ça. De Sophie Dutertre, qui est une graphiste assez connue. Et Véronique l'a contactée, lui a demandé si elle voulait faire quelque chose. Et voilà, elle nous a envoyé ces dessins qui sont bien parce que la jeune personne regarde vers le ciel, justement. Quoi dire d'autre ?
Je trouve que c'est assez raccord avec la musique, en fait.
Oui, bien sûr.
Assez épuré, assez...
Oui, oui.
Et alors, la question, avez-vous des perspectives de concert ou par ces temps aux obscurs où personne n'en a plus ?
Les deux dernières fois où je suis venu ici, Christophe, tu m'as posé la même question et tout le monde autour de la table avait des concerts. Mais j'étais le seul à dire, mais moi, je n'ai pas de concert, personne ne me propose rien. C'est un petit peu pour ça que j'ai pris du recul avec le fait que je sois soi-disant un spécialiste de l'univers musical. Je suis devenu ça et ça a correspondu au moment où plus personne me propose d'être programmé dans un concert ou un festival. Et maintenant que plus personne fait le festival, moi j'ai deux dates qui se précisent. Justement, un pour c'est fin novembre, c'est dans la médiathèque d'un village du Luberon.
Ouais.
Et c'est pour justement ce disque Le Ciel. On va faire une version... en public.
Ouais.
Et puis pour 19 Feedbacks, j'ai une proposition par le festival Crack en Belgique.
Ah ouais, super.
Voilà, pour l'année prochaine, ça devrait avoir lieu en fin février, si c'est pas possible, en mai, en espérant que ça soit possible. Donc ça a l'air de revenir. Et justement, ce matin, je suis venu à Paris aussi pour acheter du matériel en vue de refaire des concerts. Et malheureusement, je me suis un peu planté, le matériel n'est pas disponible.
Ah bon.
Bon, va falloir que je rectifie un peu mon truc.
Mais alors justement, pour les versions concert, comment tu comptes procéder ? Est-ce que tu seras derrière un ordinateur, comme on voit souvent ?
Non, pas derrière un ordinateur, mais derrière... D'ailleurs, les derniers petits concerts que j'ai faits, c'était comme ça, c'est avec des pédales,
ouais,
des choses
de pédales,
comme ça. Ouais. Oui. Oui, plus d'instruments, enfin pour le moment, peut-être que ça reviendra, mais envoyer des échantillons. Mais j'aime bien faire ça, ça m'intéresse bien. Mais bon, c'est difficile, oui.
Alors, quelles sont tes prochaines idées de création ? As-tu des projets en cours ou auxquels tu réfléchis ? Je crois que tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, que tu avais des...
Ah bon, j'ai dit ça. Oui, il y a des projets, bien sûr. On a déjà commencé le prochain disque avec Véronique. Peut-être il y aura de la guitare distorsionnée, je sais pas. Ça part un petit peu comme ça, mais ça peut changer en cours de route les choses.
Il y aura un thème un petit peu comme il y a eu pour les îles ou pour le.
Non, je sais pas. Véronique a fait des batteries, des tourneries de batteries bien, bien lourdes, bien, voilà, on va partir de ça. Puis j'ai ressorti mon synthé AKS. C'est pas encore bien défini, on en est vraiment au tout début. Et puis, il y a un autre projet là qui est presque fini. On s'est aperçu qu'il y avait une face qui était un petit peu courte. Donc on va refaire deux autres petits morceaux, et puis après on va travailler avec David Fenech pour faire le pré-mastering, et ça va s'appeler Broken Saxophones.
Ah oui.
et c'est avec des saxophones.
C'est ce
saxophone batterie.
C'est voilà. ce dont tu parlais. Donc ça, c'est toujours le duo ?
Oui.
D'accord. Ah bah super.
Voilà.
Super, super. Bon, on va terminer l'émission avec le morceau qui termine votre album duo. Et c'est un morceau qui nous tient à cœur ici dans notre émission et sur notre radio, puisqu'il s'agit du Temps des cerises. Alors j'aimerais savoir, peux-tu nous dire si c'est une chanson qui vous touche particulièrement et pourquoi ?
Bah, c'est une chanson, je vais dire, qui touche tout le monde. Ou...
Ah, enfin, pas je sais forcément.
Pas, moi, les... Peut-être sûrement pas tout le monde, mais enfin, moi, je veux dire, les gens qu'on rencontre, quoi, les gens que je ouais. côtoie, oui, que j'apprécie. Généralement, dès qu'on entend le Temps des cerises, il y a l'alarme au coin de l'œil qui est ouais. pas loin. Et puis, pour nous, c'était une évidence, quoi, pour Véronique et pour moi aussi, de faire ce morceau, le Temps des cerises. Et on a eu un petit peu de mal, parce qu'il existe pas mal de versions.
Ah, oui.
Et on a essayé plusieurs choses et puis on a fait quelque chose on a essayé de faire quelque chose le plus simple possible, le plus élémentaire possible et en même temps essayer de le porter haut, difficile de mettre des mots dessus et c'est pour ça aussi qu'on l'a mis en dernier. C'est un peu, il y a un silence assez long avant entre l'avant-dernier morceau et le dernier, le Temps des cerises, il y a un silence assez long, comme si le disque était fini. Et puis ça repart sur quelque chose de très simple. Et ça termine un petit peu moins simple, un petit peu... Je ne sais pas comment dire, comme si les choses s'élevaient. Comme
oui,
si on,
ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Bah, c'est la question que je voulais te poser. Oui, le début, c'est assez brut même, presque.
Oui, hein, oui,
dans
oui.
le souffle de Véronique ça. Dans le micro. Et puis, au fur et à mesure, il y a vraiment une progression super intéressante. Quoi. Et à la fin, c'est aérien, je dirais.
Je suis sûr qu'en sortant du studio, je vais trouver le bon terme pour définir un peu la fin. Quelque chose de... Non, le mot ne me vient pas de... Je fais le geste avec les bras à la radio, c'est pas terrible. quelque chose qui s'élève, je crois que c'est...
Ouais,
voilà,
ouais, ouais.
Peut-être
bah, qui,
rester
qui...
debout toujours, et,
ah, oui.
voilà, et être bien présent, être bien là, et ne pas lâcher le morceau.
Eh bien oui, ça c'est un bon conseil, restons debout. Alors tu sais que l'an prochain, ce sont les 150 ans de la Commune de Paris,
oui.
et que nous ferons un appel à nos amis musiciens
oui.
pour participer à une émission, j'espère une longue émission, dans laquelle on proposera aux musiciens, aux diseurs de textes, à qui veut, de mettre en musique des textes, soit des chansons, des poèmes ou même des textes historiques
oui.
De la Commune de Paris. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse
oui.
ça l'an prochain.
Oui. Si je peux dire un dernier
oui.
mot.
Je t'en prie,
on s'est marié avec Véronique en 2011 et
oui.
notre voyage de noces, on l'a fait au Père Lachaise devant le mur des Fédérés. Véronique est allée acheter un bouquet de fleurs à côté et voilà. Et voilà un peu pour décrire l'esprit du disque et... C'était bien, c'était un beau voyage de noces.
Ah, ouais. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi, Dominique. Merci à Véronique également pour ce superbe album. Merci beaucoup à Henrik et à la technique. Et puis, alors, la semaine prochaine, nous retrouverons notre amie Patricia Favreau qui interviewera, pardon pour l'anglicisme, Angelica Castelio. Allez, ben on se quitte avec le Temps des cerises. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt.
Merci à vous.
Ciao.
Quand nous en serons au Temps des cerises, et guerre aux signaux, et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.